L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Et oui, l'Afrique dans tous ses états, certes produite par Radio FM+, mais animée de main de maître par Marie-Claude Siakezak. Bonjour.
Bonjour, Guylaine. Bonjour, notre technicien en chef aujourd'hui. Et oui, bonjour à notre invité que nous retrouvons.
Voilà, Malik Hassano pour la deuxième émission. Nous avions laissé notre émission comme ça en. Dans la projection d'une deuxième, en fait, hein, et peut-être même d'une troisième.
Dans la frustration, mais est-ce que c'est anormal qu'une femme se sente frustrée sur cette terre, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on avait conclu en se disant qu'on avait encore beaucoup de choses en perspective
beaucoup
de sujets. Et c'est vrai que, voilà, peut-être que Guylaine, vous allez représenter notre invitée, non ? Je ne sais pas.
Malik Hassano. Alors, Malik Hassano, elle est étudiante en sciences politiques à Montpellier. Aujourd'hui, elle est stagiaire dans un organisme pour la jeunesse, le CRIJ, non pas stagiaire, service civique, et elle vient nous parler de la, comment dire, de l'évolution de la femme, ou de, peut-être plus exactement de sa perception de la femme en Afrique et aujourd'hui, au Burkina plus précisément, et aujourd'hui ce qu'elle, peut-être comment est-ce qu'elle voit cette femme africaine ici à Montpellier à travers elle. Bon, allez, ça va ou...
Oui.
Vous diriez peut-être autrement.
Oui, moi non. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire justement avant, c'est que ce qui m'a ravie chez notre invitée, chez Malika, c'est que vous avez dit service civique. Effectivement, c'est quelqu'un qui est quand même, on sent, très au service.
Hein, engagé.
Au service engagé de ses opinions par rapport à son pays, par rapport au féminisme, à la féminité, etc. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans notre dernière entretien à toutes les trois, c'est quand même qu'elle est encore très porteuse des traditions et nous a pas mal ouvert le champ de compréhension des fonctionnements ethniques, interethniques et tout ça. Et c'est vrai que quand on va là-bas sur ce continent et particulièrement dans ce pays, dont je ne peux pas me revendiquer de connaître tous les pays, même si je ne suis pas africaniste dans l'âme, je veux dire, on sent bien quand même qu'encore cette tradition, elle est très, alors je ne dirais pas forcément pesante, même si par moments elle peut l'être encore. Malheureusement, des fois. Bon, mais en même temps, ils ont leur système de parenté à plaisanterie qui leur permet, par des pirouettes, de s'en sortir. Et surtout qu'elle est encore très imprégnée de ça. Et en même temps, c'est quand même une jeune, donc avec ses études en droit, sciences politiques, qui effectivement se tourne vers un pays pour son avenir. Donc, pour moi, elle est vraiment très représentative d'une jeunesse qui ne tourne pas le dos résolument, parce que c'est pas non plus la solution, à tout ce qui a fondé sa culture, son origine, ses familles, ses racines, etc. Voilà, Malika, vous avez la parole.
Bonjour à tous, bonjour William, bonjour Guylaine, bonjour Marie-Claude.
Bonjour.
Merci à vous de m'accueillir ici encore une deuxième fois. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder la question de la femme africaine et des contradictions qu'il y a entre la femme africaine moderne et la femme africaine, on va dire, traditionnelle. En réalité, bon, ce sont des contradictions, mais d'un autre côté, c'est une continuité aussi, je pense. Donc, j'aimerais bien aborder le sujet de la polygamie, pour moi, aujourd'hui.
Ouais. Oui. Quel programme ?
Parce que j'en parlais hier, parce que j'ai fait un débat dessus. Donc, j'ai eu des idées intéressantes. Pour moi, ça a toujours été non. J'ai toujours été opposée à cela. Mais d'un autre côté, en tant que femme moderne, je me dis que ce sont des formes de mariage, d'alliance, qui méritent quand même en fait, d'aller plus en profondeur que ce qu'on a l'impression de voir. Parce que quand on fait la lecture, en fait, comme ça, à fleur de peau, genre en surface, on a l'impression en fait, que c'est une forme d'oppression de la femme. Alors qu'en réalité, d'un autre côté, quand on s'intéresse à l'aspect traditionnel de la chose, la polygamie, c'est quand même un mode de protection de la femme. Quand on se rend compte que les richesses appartenaient aux hommes, et appartiennent toujours aux hommes d'ailleurs, la plupart du temps, les femmes ne travaillent pas, elles se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de vivre au crochet de l'homme. Et la polygamie, en fait, empêche l'homme, ou plutôt le maintien, entre guillemets, en fait, au service de la femme. C'est-à-dire que d'une part, sur le plan économique, parce il a l'option de la polygamie, donc il ne va pas forcément virer sa première femme, juste parce qu'il a rencontré une deuxième femme, ce qui permet à celle-là d'être protégée sur le plan économique. D'autre part, la polygamie aussi est une forme de pression que les femmes peuvent exercer, en fait. C'est une forme de pouvoir pour certaines femmes, dans certaines sociétés. Je m'explique. Par exemple, chez nous, on dit que la barbe exécute le matin ce que la tresse lui a dicté le soir.
Oui. C'est mignon, hein, c'est joliment dit.
C'est-à-dire que, en fait, c'est un moyen de pression et de pouvoir. Pourquoi ? Parce que quand les femmes s'entendent, bien sûr, quand il y a une entente,
tout à fait.
Elles
c'est
arrivent, en fait, à exercer une pression et ça permet de prendre des décisions à l'avant, c'est-à-dire à travers l'homme. C'est-à-dire que l'homme fait office de l'écran de la famille, mais on sait que derrière, ce sont les femmes qui ont poussé à prendre cette décision et cette décision. D'un autre côté, aujourd'hui, je dirais que les choses ont évolué et que la polygamie n'est plus ce qu'elle était.
Tout à fait.
À l'heure actuelle. Mmh. Et que là, c'est là qu'on peut, en fait, dire que ça peut être tragique parce qu'aujourd'hui, on a plus en plus de mal à accepter ça. Et moi, je le comprends tout à fait, je le conçois. J'ai du mal à m'imaginer, moi, en tant que femme moderne qui participe à 50-50 avec mon mari pour les charges du foyer, me voir dans un mariage polygame. Après, il y a une autre question aussi à laquelle j'ai pensé, c'est-à-dire que malgré le fait que je pense au fait je ne penserai jamais me mettre dans un foyer polygame, mais d'un autre côté, moi, je suis protégée. Je suis protégée par les lois, je suis protégée par, par une certaine culture que j'ai. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Certaines femmes, par exemple, qui acceptent qui n'acceptent pas le mariage polygame, qui se mettent dans des foyers sans faire attention à ce qu'il en résulte derrière, c'est-à-dire elles se mettent dans des foyers sans mariage légal, elles ne sont pas protégées, elles savent pas où elles vont. Donc, ça permet à l'homme, en fait, de faire un peu ce qu'il veut. Même si elle ne veut pas de la polygamie ou même si elle est contre, elle se retrouve dans une situation où elle est délaissée de tous parce qu'on n'accepte pas son choix de rester la seule et l'unique. Mais en même temps, elle est entre l'enclume et le marteau, j'ai envie de dire, parce que elle est comme dans une prison. Il y a la pression sociale qui fait qu'elle a du mal à quitter son foyer. Elle n'aime plus peut-être cet homme-là ou elle n'a plus envie d'être avec lui, mais la pression sociale, la pression économique font que elle est obligée de rester et de vivre au crochet de cet homme-là malgré...
Oui, alors j'interviens un petit peu, même si c'est passionnant, c'est pour rappeler, parce que j'essaye pour rappeler quand même que le mariage polygame est encore reconnu dans beaucoup de pays africains et qu'il y a une option qui peut se faire, mais une option au niveau de l'état civil, mais que ce que vient de dire Malika, c'est qu'il y a encore pas mal de gens qui font un mariage traditionnel ou un mariage religieux sans qu'il y ait vraiment d'actes d'état civil. Et que quand Malika dit qu'elle est protégée, effectivement, elle est protégée d'abord de par sa nature à elle, hein, qui est une nature quand même volontaire, etc. Et par l'intellect, par sa formation, par le fait qu'elle a fait des études et qu'elle a réfléchi. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout cette conscience-là. Donc ce que Malika explique, c'est qu'il y a des moments, si c'est un mariage traditionnel, sauf que dans la société, le mariage traditionnel est reconnu à ce moment-là. Et que chez nous, c'est hors de question. Voilà. Alors que là-bas, ça peut exister. Et c'est le poids des traditions encore qui vient interférer.
Mais justement, il y a ce paradoxe entre modernité et tradition. Le mariage traditionnel est reconnu. Il a une valeur symbolique. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de valeur légale. Ce qui, en fait, donne le pouvoir à l'homme de...
Absolument.
De jouer entre la modernité et la tradition. Il peut prendre une femme et la marier, en fait... dans un contexte de mariage traditionnel, mais prendre une autre femme à l'état civil. Les deux vont être ses femmes, mais il est dans une situation de polygamie et la première ne peut rien dire parce que
tout à fait.
Légalement, elle n'a aucun poids.
Absolument.
Donc, on joue entre la tradition et la modernité pour avoir ce qu'on veut, quoi. Donc, l'homme, il est toujours favorisé dans ce contexte-là. Et ce qui me dérange le plus, moi, c'est que celles qui vont justifier cette configuration-là, la plupart du temps, et qui vont le perpétrer, ce sont les femmes elles-mêmes. Ce sont les femmes elles-mêmes en réalité parce que elles ne, déjà parce qu'elles ne se défendent pas, et particulièrement au Burkina. Parce que dans d'autres pays, quand même, il y a une forme de résistance. On voit qu'il y a du militantisme quand même. Et, mais au Burkina, c'est quand même étrange parce que c'est très, très peu. Il y a peu de résistance face à ça. Les femmes burkinabées sont
peu politisées, vous diriez?
Non, elles sont politisées. Mais elles ont du mal en fait à se représenter et à s'ériger contre certaines traditions, même quand ces traditions-là ne défendent pas leurs intérêts. Et généralement, même les femmes que vous considériez comme des femmes modernes, des femmes indépendantes, elles auront tendance à défendre la tradition parce qu'en fait, sur la place publique, elles seront adulées. Oh, c'est une femme qui conserve les traditions. Elle est bien, elle est indépendante, mais en même temps, elle n'oublie pas ses racines et tout. Généralement, c'est ça. On vous traite de déracinée parce que vous avez le courage de dire qu'il faut changer les choses. Vous avez le courage de dire que voilà, ça ne va pas dans la tradition. Il faut arrêter. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je le vis en tant que féministe, et je le vois en fait, par exemple, à travers les réseaux les réseaux sociaux, mais en fait sur les pages burkinabé, les féministes, elles se font flageller. Et c'est peu de le dire, franchement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, Marie-Claude, ou pas.
Mais... Moi, ce que je ressens surtout, et qui peut aussi éclairer ce qui vient d'être dit, c'est que le Burkina Faso, c'est un pays, je ne peux pas dire le contraire, c'est ce qui m'est arrivé il y a 25 ans, 26 ans, faites attention si vous y allez ou quand vous irez. C'est un pays quand même qui est très attachant et justement qui est très riche de sa culture, qui est très, très doté d'une culture solide. Et d'ailleurs, au niveau de la migration, finalement, il y a une diaspora, mais c'est pas forcément une diaspora migratoire. C'est des fois un choix qui a été fait. Et c'est un pays où les gens ont à cœur de revenir. Ça se voit beaucoup par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui est très fort et qui peut effectivement retenir et qui peut faire qu'à un moment, une femme qui va affirmer cette chose-là, elle va être reconnue, alors que celle qui commence à transiger, à dire, à pouvoir se révolter, on va dire, parce qu'elle va quelque part, elle va déranger un peu cet ordre établi. C'est plutôt comme ça que je le ressens, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis aussi, des intellectuels, etc. Mais effectivement, on peut sentir ce poids-là encore de la tradition, qui est à la fois la richesse, et tout, on en parle souvent, hein, l'ambivalence, l'ambiguïté, le paradoxe, en fait, vraiment. Et la femme, pour moi, la femme africaine, c'est un paradoxe vivant et permanent. Si tant est que la femme au monde ne soit pas un paradoxe vivant et permanent, mais la femme africaine particulièrement. Voilà.
Alors, Malika, ce que j'ai entendu aussi, vous avez finalement donné une sorte d'explication sur par votre posture féministe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une frange de la population masculine serait pour modifier cet état de fait qui n'est pas satisfaisant pour les femmes en l'occurrence, et peut-être pas au fond aussi satisfaisant que ça pour lui?
Bah oui, parce qu'il faut comprendre qu'un homme qui veut conserver sa place de chef de famille conserve aussi sa place de responsable financier de la famille, économique de la famille. Donc en réalité, cette situation peut être désavantageuse pour lui dans un monde où on est en pleine expansion économique. Le pays va mal, il y a de l'inflation, donc l'homme à lui seul ne peut pas tenir un foyer. Mais d'un autre côté, en fait, si vous voulez, j'ai envie de dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc ils veulent conserver en fait les acquis de la tradition, c'est-à-dire les avantages de la tradition, liés à la tradition, ce côté-là où il est le chef de famille, il dirige. Mais en même temps, ils veulent aussi cette touche de modernité chez la femme. Ouais. Vous parlerez à un homme africain, il vous dira je veux une femme indépendante, intellectuelle mais pas trop, qui réfléchit mais pas trop.
Est-ce qu'on peut sur identifier mesure, quoi.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut identifier ce « il » au pluriel? On peut l'identifier mieux que ça.
Là, c'est carrément de la sociologie, hein, Guylaine.
Parce qu'il me semble que je connais quelques Africains jeunes, autour de 30 ans, qui veulent avoir une épouse avec laquelle on peut discuter, avec laquelle qu'on peut aimer, qu'on peut, avec laquelle qui est capable de partager les ressources du foyer. Est-ce que c'est, là, vous avez dans ce « il » au pluriel, est-ce que vous voyez des hommes plus âgés que le trentenaire ou carrément plus jeunes qui voudraient revenir à, en quelque sorte, par réaction, d'une sorte, un réactionnaire, comment dire, une posture réactionnaire qu'on peut trouver dans d'autres aspects de la société, notamment française. Je pense, par exemple, au phénomène religieux, où parfois les plus jeunes sont plus réacs que des personnes de 50 ans. Voilà, j'aimerais approcher un petit peu ce que vous dites en sortant de ces généralités binaires, hommes, femmes. Voilà, je trouve que... Enfin, moi, j'en suis pas tellement satisfaite et je me dis que c'est pas du tout la représentation que j'ai d'homme masculin, d'homme, pardon, africain.
Moi, je dirais que les jeunes sont beaucoup plus réactionnaires, oui, en
effet. Aussi.
En tout cas, c'est ma perception des choses.
D'accord.
Parce que y a un sentiment, en fait, ces temps-ci, quand même, que j'approuve. De retour aux sources, de valorisation de la culture. Et c'est très, très important. Mais d'un autre côté, je trouve qu'ils sont très réactionnaires et ils ne comprennent pas les choses. Parce que quand, en fait, on veut être réactionnaire, il faut prendre en compte le contexte spatio-temporel dans lequel on se trouve et faire attention, en fait, à ce qu'on désire en réalité. Parce que j'ai envie de dire que ces hommes-là, par exemple, pour eux, la femme idéale, c'est la femme qui est soumise, quoi. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas d'une femme qui est dépendante d'eux financièrement. Paradoxe. Si vous désirez que votre femme soit soumise, attendez-vous à ce qu'elle soit dépendante de vous aussi. Si vous voulez que votre femme n'aille pas au travail, attendez-vous à ce qu'elle soit complètement dépendante de vous. Mais ils ne veulent pas ce genre de femme-là.
C'est quand même le modèle qui est diffusé dans des télévisions jusqu'en Afrique. Enfin, je veux dire, ce modèle d'un couple équilibré qui partage, comme vous le disiez tout à l'heure, les frais, les tâches. Voilà, c'est quand même un modèle à l'occidental dans lequel que ces personnes-là qui vivent au Burkina... Vous parlez bien d'hommes africains qui vivent au Burkina ou vous parlez d'hommes africains dans la diaspora ?
D'hommes africains qui vivent au Burkina, d'hommes africains dans la diaspora aussi. Hein,
d'accord.
En réalité.
Okay.
Parce que j'ai envie de dire que même ceux qui viennent ici, il leur arrive parfois d'être aussi réactionnaires que ceux qui restent là-bas,
absolument.
Voire plus. Parce que je ne comprends pas d'ailleurs cela, parce que je me dis que quand on voyage, on a une certaine ouverture d'esprit, on est quand même assez mitigé. Moi, je n'ai pas une position, je ne peux pas vous dire que je suis pour ou contre un phénomène, un fait social ou quoi. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'il en ressort, ça dépend des personnes qui sont concernées. Ces hommes-là qui sont contre, qui sont pour, par exemple, la polygamie, ils sont pour la polygamie, ils veulent les avantages de tous les côtés, mais je ne pense pas qu'ils mesurent, en fait, ce que ça implique, en fait, comme coût, comme sacrifice. Et ils le refusent. Si vous vous intéressez, en fait, à l'ancien temps, vous verrez que mon grand-papa, il était polygame, mais toutes ces femmes, il s'occupait de toutes ces femmes. Je sais que tous mes parents... Il a légué une parcelle pour construire à tous ses enfants. Ils étaient 18. Il faut en avoir les moyens. Et il faut en avoir les moyens non seulement économiques, mais en plus physiques et morales. Parce que gérer une famille, une grande famille, gérer plusieurs femmes, c'est pas chose facile. Mais ces messieurs-là ne s'en rendent pas compte, j'ai l'impression.
Est-ce qu'on aurait, Marie-Claude, une explication d'ordre psychologique ? Parce que vous êtes panafricaniste, animatrice de radio, mais vous êtes aussi psychologue. Peut-être avez-vous déjà eu...
Oui, enfin, moi j'ai des hypothèses comme ça, concernant justement ce phénomène et beaucoup d'autres que nous constatons ici. Par exemple, au retour aussi du besoin chez nous des langues régionales, du régionalisme, etc. Parce qu'il me semble que cette espèce de phénomène monstrueux, la mondialisation, parce que ce dont Malika parle aussi, c'est de l'évolution de la vie en ville. Quand on voit la vie en ville là-bas, même s'il y a encore il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de quartiers très démunis, etc., on voit bien, comme elle le dit, qu'à un moment quand même, il faudrait que le mec, hein, il faut savoir à quoi il s'engage, parce que s'il prend deux ou trois nanas, à un moment, et qu'on lui demande d'assurer comme assurer les grands-parents, etc., C'est plus tellement possible. Puis il y a des exigences maintenant, il y a des exigences de consommation, etc., qu'il n'y avait pas dans le temps, quoi. Donc je pense qu'à un moment, cette espèce de retour, et quand les jeunes viennent ici, les jeunes Africains viennent ici, et que peut-être ils se trouvent précipités dans ce monde, dans ce tourbillon aussi de consommation, d'obligation, etc., peut-être que, et qu'ils ont aussi le besoin de se réapproprier leurs racines, je pense que ça crée des espèces de blocages comme ça, et de phénomènes par moment d'anxiété, etc., qui fait qu'on a on peut avoir des régressions et des comportements outranciers. C'est-à-dire, à la fois, on ne renonce pas à avoir plusieurs nanas, mais en même temps, on veut pas savoir, et du coup, on se précipite. Voilà. Moi, je voulais citer un exemple, il faut m'excuser, mais j'en ai vécu tellement des choses là-bas. Ça m'a rappelé ce que disait Malika. Un jeune homme à l'époque que je rencontrais souvent parce qu'il était logé à Bobo chez les scouts là-bas. Bon, c'était les scouts, ils avaient un local où ils logeaient beaucoup de jeunes un peu en galère, quoi. Et ce jeune homme, une fois, était venu me demander, à moi et à mon ami, à l'ami chez qui j'habitais, il était venu nous demander un petit peu d'argent pour s'inscrire pour le baccalauréat, parce que quand même les choses sont payantes là-bas. Et puis on lui avait donné un peu d'argent pour qu'il puisse s'inscrire. Et puis quelques temps après, quand je suis revenu, je l'ai rencontré, je lui demande, il me dit qu'il a été reçu au bac. Voilà, donc je le félicite, il était très heureux et tout, et je lui donne un petit peu d'argent. Comme on ferait en France avec un de ses enfants ou quelqu'un, voilà, qu'on aime bien, qui est proche, ou un jeune qui vient d'avoir son bac. Et quelques temps après, je le rencontre parce qu'il venait me voir souvent. Ils sont très très fidèles, hein, en amitié, souvent. Les gens là-bas, il y a quand même une espèce de fidélité, de profondeur. Et quand je le vois, je lui dis, mais finalement, tu t'es acheté quoi avec ton argent, naïvement? Parce que même si je connais bien le pays, et puis c'était au tout début que j'y allais, on reste encore naïf des fois. Et il m'explique qu'en fait, il est allé rembourser sa dette auprès de la dame qui fait j'en parlais l'autre jour, de l'autonomie des femmes, qui fait la nourriture, qui vend les plats au coin de la rue, hein, voilà, et qu'il avait une dette et qu'il est allé la rembourser. Alors je lui dis, mais comment ça se fait finalement? Je pose la question, et il m'explique que son père est instituteur à Boromo, je ne sais plus où, à côté, dans un gros bourg, un gros village. Il est instituteur et qu'il a plusieurs femmes et qu'il a 13 ou 14 gamins. Et que du coup, son père, quelque part, l'envoie à la ville pour qu'il ait le bac, bien sûr, c'est normal, avec un père instituteur, mais en même temps, ne lui donne rien pour vivre, quoi. Et je dis, mais disons, ton père, quand même, avec un maître lui-même, un enseignant, il n'a pas compris quand même que pour faire autant d'enfants, j'ai pas parlé même de polygamie, quoi. Et pour dire, ça existe encore, ces choses-là. Et pourtant, un homme qui est censé enseigner, justement, au contraire, aux enfants, aux filles, etc., le contrôle des naissances, etc., etc. Et pour dire que ces choses-là existent encore. Donc, cette ambivalence-là, hein, à la fois, on envoie le fiston pour qu'il ait le bac, parce que quand même, c'est bien, maintenant, d'avoir le bac, et en même temps, on lui donne aucun moyen, et le pauvre gamin, il se débrouille comme il peut en ville, quoi. Voilà.
Là, mesdames, on a beaucoup parlé, hein. On a été très bavardes, on n'a même pas laissé la place à la musique. Alors, je vous propose, Marie-Claude, de la mettre maintenant, que nous nous disions au revoir et que nous...
Alors, si c'est pour se dire au revoir, c'est Madame Malika qui a choisi.
qui a choisi la musique. Alors, donc, Malika, vous allez lancer la musique. Nous, on se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Avec Malika, à nouveau.
Avec Malika, on ne va pas la lâcher comme ça. Donc, Malika, il faut annoncer le titre.
Ah, d'accord. Donc, là, c'est une musique de... Awa Boussim, c'est une chanteuse burkinabé.
Qui a une très belle voix.
Oui, qui a signé avec Sony, d'ailleurs, je l'adore. Le titre, c'est Mob Doré.
Mob Doré, oui. Voilà. I need it, but we're too bad to do it.
ekini gaso kwani kini la bo gara bi kini gaso kwani ati wo yuna parpa ki ba kala la we mo nga sai zenwe bo wona ba so
ayo
zeni pa wona da ayo zeni bi din da wala
ayo
a zeni bi da mo wala
ayo
mo kon la kala da bo de wala
ayo
mo kon la kala bi da mo wala
ayo
mo kon
Ati wo nyuna parpa kira kela lawe mama ngasai.